Les Années-Lumière, édition du 14 février 2010. Coma. Des médecins disent avoir communiqué avec un patient en état neurovégétatif. Bonjour, ici Yannick Villedieu, l'équipe. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Alors, cette édition, elle va commencer avec ce sujet sur le coma que je vais vous présenter. Après quoi, vous allez nous parler éducation, Sophie André Blondin. Éducation, je dirais, des parents.
Oui, votre petit trésor est soudainement passionné par le skeleton. Comment en faire un passionné harmonieux et non un passionné obsessif?
Nous aurons ensuite le courrier des années-lumière, une question sur le sel de la mer posée par une enfant de 6 ans. Puis la chronique des années-lumière. Cette semaine, Marie-Dominique Beaulieu nous parle de changements possibles dans la formation des médecins. Deuxième heure, Gaëlle Lucia Berdou, en cette année de la biodiversité, vous allez nous présenter un projet international ambitieux.
Très ambitieux, celui de décoder le génome de 10 000 espèces d'animaux, beaucoup plus donc que les quelques dizaines seulement qui sont déjà connues.
Après le petit journal de la science, Chantal Srivastava, vous allez nous parler hiver, véritable hiver.
Je vous propose, Yannick, un tour du monde des techniques de déneigement telles que vues cette semaine au Congrès international de la viabilité hivernale qui se tenait à Québec.
Et pour terminer l'émission, Sophie André Blondin, vous allez recevoir l'auteur de la semaine.
Vincent Fleury signe « La chose humaine ou la physique des origines », c'est aux éditions Vuibert.
Mais pour commencer donc, le coma. L'histoire qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine est tout à fait étonnante, troublante.
Je pense que la question qu'on se pose est-ce que ces patients, après un coma, ont des perceptions, des pensées, et si oui, lesquelles? Donc on parle de patients qui vont survivre à leur coma, on ne parle clairement pas de la mort cérébrale, là je pense qu'il y a... aucun doute sur ces diagnostics. C'est des patients qui vont se réveiller ici de leur coma, c'est-à-dire ils vont ouvrir les yeux, bouger, mais tous les mouvements qu'on voit, c'est des réflexes. C'est ce qu'on appelle l'état végétatif. Et alors ici, avec ces scanners, la résonance magnétique fonctionnelle, on a pu en effet démontrer des signes de conscience chez quatre des patients étudiés et chez l'un d'entre eux, on a pu pousser cette technologie plus loin et établir une communication.
Établir une communication avec un patient qui était en coma neurovégétatif depuis plus de 5 ans. C'est ce qu'a réussi une équipe donc de chercheurs britanniques et belges, dont le docteur Stephen Lorez, qu'on vient d'entendre. Le docteur Lorez est neurologue au Coma Science Group de l'Université de Liège. L'étude a porté sur 54 patients à qui l'on a fait passer un test dans un scanner, dans un appareil d'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. L'expérience est bien particulière et le docteur Stephen Lorez en décrit le protocole.
Si je vous mets dans un scanner et je vous pose des questions, si vous pensez oui ou non, je ne peux pas mesurer la différence dans votre cerveau. Et donc, il faut utiliser... une petite astuce, c'est un peu bizarre, on doit, avant de faire l'examen, demander si vous voulez me dire oui, vous allez penser, vous allez vous imaginer de faire votre sport favori, et donc si vous imaginez de faire du sport, il y a le cortex moteur qui va s'activer de manière très importante, ce qui me permet de le mesurer, donc de voir que vous êtes en train de me dire oui. Si vous voulez me dire non, là je vous demande de faire quelque chose d'autre, de s'imaginer de rechercher son chemin. Et alors, il y a un autre set de régions corticales qui vont s'activer, entre autres l'hippocampe. À nouveau, je peux le mesurer. Et donc là, je vais voir que vous me communiquez un non.
Alors, ça veut dire que pour faire cette expérience-là, pour faire cet examen-là avec vos patients qui sont dans un coma important, il a fallu qu'ils puissent comprendre les règles du jeu, au fond.
Voilà, donc je pense que c'est important de souligner que c'est exceptionnel, en effet, incroyable que des patients avec une atteinte cérébrale très importante ont pu comprendre cela, comprendre les règles du jeu, ce qui veut dire aussi que quand on voit rien, on peut rien dire. Mais par contre, quand on a des résultats, je pense que c'est difficile de les interpréter autrement que vraiment, oui, le patient est conscient et oui, on peut communiquer par des questions oui-non.
Alors, 54 patients donc ont participé à l'expérience. Sur les 54, il y en a 5 qui ont manifesté une forme de réaction au test et l'un d'entre eux, celui dont j'ai parlé il y a quelques secondes, a communiqué pendant qu'il était dans le scanner. De nouveau, le docteur Steven Lorès de l'Université de Liège.
C'est un patient qui nous est envoyé pour un séjour d'une semaine, comme en amenant des patients qui viennent de partout en Europe, qui va avoir toute une série d'examens, différentes machines pour essayer de mieux mesurer l'activité dans son cerveau, d'être plus précis au niveau du diagnostic et du pronostic. Et donc, il se trouve en effet, ce patient qui est un jeune homme avec le diagnostic d'état végétatif après un traumatisme crânien, eh bien, d'abord, première surprise, montrait des signes de conscience dans le scanner et ensuite a pu répondre à des simples questions. On lui a posé des questions comme « Est-ce que votre papa s'appelle Julien ?» Oui ou non.
Et il a répondu de façon exacte aux questions à toutes les questions qu'on lui posait ?
Sauf une où on n'a pu rien mesurer. Donc pourquoi ? Je n'ai aucune idée.
Et ça ne peut pas être dû au hasard, une activité cérébrale quelconque, et là, au hasard, ça s'allume dans la machine, comme on dit. C'est vraiment une réponse précise à une question précise.
Mais c'est difficile de l'expliquer par le hasard. Si chaque fois il donne les bonnes réponses à des questions, il y a une seule réponse correcte, ça devient difficile de dire que c'est le hasard. Et donc, on a bien vérifié notre méthode et je pense que c'est difficile de l'interpréter autrement que, en effet, une preuve de conscience et de communication.
Une observation donc qui soulève bien des questions sur le coma, ce dont j'ai discuté avec un neurochirurgien de l'hôpital du Sacré-Cœur à Montréal, le docteur Marc Giroux. Il a bien sûr lu, le docteur Giroux, lu l'article du New England Journal of Medicine avec beaucoup d'intérêt.
C'est un bon article, un peu surprenant au début. Ça redéfinit un petit peu la définition du coma qu'on avait. Donc, ça vient nous démontrer qu'il y a différents stades probablement. Et on s'est toujours douté que les patients qui étaient en coma, qui ne répondaient pas, on se demandait si ces patients-là entendaient, s'il y avait des réactions, s'il y avait une compréhension du monde extérieur. Et ça vient un peu démontrer ce que on pensait depuis longtemps. Mais là, on a des images avec la résonance magnétique qui nous le démontrent qu'effectivement, ces patients-là peuvent, dans certains cas, selon la profondeur du coma, avoir des réactions.
Est-ce que ce sont des réactions qu'on pourrait qualifier de conscientes? Le mot est compliqué, la conscience, mais est-ce que ce sont des réactions conscientes, d'après vous?
Le problème, c'est effectivement de définir la conscience. La définition du coma comme tel, c'est qu'un patient a aucune conscience de son environnement extérieur. Il peut pas réagir avec l'environnement extérieur. Donc, en bout de spectre, le coma ultime, c'est la mort cérébrale. Et entre ça, entre un patient qui est inconscient, ces patients-là peuvent avoir une conscience de leur entourage. Donc, si vous avez un patient qui n'est pas nécessairement végétatif, mais qui est inconscient, si lorsqu'on lui fait mal, bien, il est capable de ressentir la douleur et d'avoir un réflexe de retrait. Donc, on pense que ces patients-là, une certaine catégorie de patients, peuvent avoir conscience un peu de l'entourage.
C'est ça qui est troublant, au fond, dans cette étude du New England, c'est que le patient, le fameux patient là, qui a répondu apparemment à des questions, oui, non, etc. Ce patient-là est dans un état végétatif depuis 5 ans même, et il semble qu'il soit capable, en tout cas, de comprendre quelque chose. Ça, c'est quand même étonnant, non?
Oui, c'est étonnant, mais ça vient soulever la question. Donc, dans la conclusion là, de cette étude-là, ce qu'on disait, est-ce que ce patient-là qui était dans un état végétatif, selon la localisation de la lésion, est-ce que c'est tout simplement parce qu'il ne pouvait pas répondre, donc il était comme paralysé, exemple, ou il ne pouvait pas parler, mais que l'information entre, donc lorsqu'on parle au patient, il entend, il peut décoder, mais comme il est comme emprisonné, à ce moment-là, on n'a pas de réaction visible. Ça pourrait être ça, donc il soulève ça aussi, mais ça pourrait être aussi des patients qui, effectivement, sont dans des comas végétatifs, mais qu'il y a des parties du cerveau qui fonctionnent, ce qu'on peut voir sur les images qui nous ont démontré, mais les zones d'association entre chaque partie du cerveau sont endommagées, donc à ce moment-là, on ne peut pas transférer l'information qu'on a reçue pour qu'on ait l'impression, que notre entourage ait l'impression qu'il y ait une réaction de conscience.
Mais est-ce que ça change quelque chose sur la façon de traiter ou en tout cas de regarder ou de comprendre ou de diagnostiquer ce genre de patient-là, d'après vous?
Mais ça a toujours été une énigme. On s'est toujours demandé, est-ce que les patients comprennent? Est-ce que les patients ont mal? Est-ce que les patients ont des réactions? Effectivement, comme il arrive en conclusion de son article, si on était capable, au point de vue éthique, de pouvoir questionner ces patients-là et d'avoir une réponse, jusqu'où voulez-vous qu'on aille dans le traitement? Est-ce que vous voudriez vivre comme ça? C'est sûr que ça pourrait redéfinir notre pratique de façon éthique.
Je ne sais pas si on peut vous poser la question à vous personnellement, qu'est-ce que vous feriez avec ce patient-là ou qu'est-ce que vous pensez que le médecin traitant de ce patient-là puisse faire ou devrait faire?
Ben, ce serait très... il faudrait premièrement être sûr que les réponses qu'on voit sur la résonance magnétique, sur les examens, sont ce que le patient... que ça reflète bien la pensée du patient. Parce que c'est sûr qu'il peut y avoir marge à erreur là-dedans. Et si on en arrive éventuellement dans le futur à avoir des outils qui nous indiquent clairement que c'est valable et que le patient vraiment nous comprend bien, que la réponse est valable aussi, mais à ce moment-là, ça pourrait changer de façon drastique notre façon de traiter ces gens-là.
Le docteur Marc Giroux, qui est neurochirurgien à l'hôpital du Sacré-Cœur à Montréal, est donc très prudent dans ses conclusions, tout comme d'ailleurs son confrère belge, le docteur Steven Lorez.
Je pense qu'il faut rester très prudent avant d'utiliser ces techniques dans la vraie vie à l'hôpital, mais je pense qu'on ouvre déjà la porte là à poser des grandes questions à ces patients. Est-ce qu'ils ont mal? Est-ce qu'ils veulent continuer de vivre? Mais avant de pouvoir faire cela, il va falloir que tous ensemble on réfléchisse, parce que là, pour le moment, c'est tout nouveau, on n'a pas encore même réfléchi à la possibilité de poser ce genre de questions à ces patients-là. Donc il va falloir prendre le temps, beaucoup de temps, avant de pouvoir en faire bon usage dans notre routine clinique. Et c'est clairement pas le scanner qui va être la solution. Il faut maintenant, et on y travaille, des solutions portables, donc des machines qui vont mesurer l'activité électrique du cerveau, qui sont, elles, portables et que donc le patient peut prendre avec lui quand il rentre dans le centre de revalidation, par exemple.
Docteur Lorez, pratiquement... qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de patients-là qui sont donc dans un coma, vous dites profond végétatif. Ou végétatif, et dont on dit que certains, là il y en a 1 sur 50 en tout cas, ont une certaine activité consciente. Qu'est-ce qu'on fait pratiquement avec ces gens-là et avec ce patient-là?
Ben, je pense que, donc, chez les autres patients aussi, donc il y en avait plusieurs où on a pu montrer des signes de conscience. Le moment où vous voyez cela sur votre écran, tout change, hein, parce que d'un coup, le patient qu'on pensait être inconscient ne l'est plus, et donc vous savez qu'il a une perception de douleur, d'émotion, et donc toute sa prise en charge, son traitement va être différent. Je pense que ça, c'est important à souligner, mais que en ce qui concerne les conséquences de sa communication, il faut d'abord être sûr de encore non seulement la partie technique de la communication, mais aussi de ses capacités intellectuelles. Quels sont les critères minimaux pour pouvoir dire je prends la réponse du patient au sérieux et je vais aller plus loin s'il me demande ceci ou cela. Et donc là, ça va nécessiter tout un débat avec la communauté médicale, les bioéthiciens, les juristes. Ça va prendre le temps qu'il faut avant que ceci va se traduire vers notre activité à l'hôpital.
Le docteur Steven Lorez est neurologue au Coma Science Group de l'Université de Liège, en Belgique.
Louis-André Bertrand, journaliste au site Internet des Années-Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radio-canada.ca/lumière et également en diffusion en direct sur Sirius et en flux MP3. Vous pouvez même emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet. Il n'y a plus d'excuses pour manquer Les Années-Lumière avec Yannick Villedieu.
Alors, Vancouver oblige, les vedettes du jour sont les athlètes. Des médailles, mais aussi des déceptions sont à prévoir pour ces sportifs qui ont tout sacrifié pour se rendre au sommet, enfin, plutôt au bas de la pente, je ne sais pas comment on doit dire, mais Sophie-André Blondin. Les chercheurs ont trouvé que tous ne vivent pas leur passion de la même façon. Certains ont en effet tout sacrifié, d'autres moins.
Hein? Effectivement, les psychologues ont déterminé que parmi les gens qui vivent une passion pour une activité, bon, le sport en l'occurrence, mais il peut aussi s'agir de musique, il y a des passionnés obsessifs et des passionnés harmonieux. Les performances des deux types de passionnés sont comparables, mais le plaisir qu'ils éprouvent à s'adonner à leur passion, ça l'est moins. Alors, la théorie de la passion postule qu'un passionné obsessif va être contrôlé par sa passion, alors qu'un passionné harmonieux va avoir la maîtrise sur son activité préférée. C'est une théorie qui est au cœur des travaux du laboratoire de recherche sur le comportement social de l'Université du Québec à Montréal. Geneviève Majot, elle, par contre, est professeure adjointe au département de psychologie de l'Université de Montréal. Elle s'intéresse aussi au rôle de l'environnement social, au rôle de l'environnement social dans le type de passion que les gens éprouvent pour des activités. Et elle a publié les résultats d'une étude dans la revue Journal of Personality sur le rôle des parents dans le développement des passions des enfants à l'égard de leurs activités préférées.
On s'imagine à un athlète qui est passionné, on a tendance à penser qu'il est obsessif envers son activité, justement, qu'il a tout sacrifié pour atteindre des niveaux élevés d'excellence. Puis cette théorie-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est qu'il y aurait peut-être deux façons d'être passionné, puis qu'on peut s'investir vraiment profondément dans une activité, mais que c'est pas nécessairement malsain, que ça peut être une façon de vivre sa vie puis de rester équilibré par rapport à cette activité-là.
Alors, la passion est un sujet d'étude mesurable en psychologie?
Oui, on peut le mesurer. C'est sûr que lorsqu'on le mesure, il faut qu'on demande aux gens de répondre à des questions. Donc, eux autres, ils savent qu'est-ce qu'ils vivent par rapport à leur activité, puis on peut aller leur demander à quel point qu'ils aiment leur activité, à quel point que cette activité-là est importante pour eux. Les gens qui sont passionnés, c'est plus que qu'ils aiment l'activité. Ils se définissent par cette activité-là. Ils disent pas qu'ils jouent de la musique ou qu'ils jouent au basketball. Ils sont des musiciens ou sont des athlètes. Donc, ils utilisent cette activité-là pour se définir. Donc, nous, qu'est-ce qu'on regarde? C'est si les critères qu'on utilise pour définir la passion, si cette personne-là, elle vit dans l'activité.
Et cette passion-là peut prendre deux chemins. Elle peut être obsessive, elle peut aussi être harmonieuse. Comment définissez-vous l'une ou l'autre? Comment mettez-vous les gens dans l'une ou l'autre des catégories?
Oui, dans les questions qu'on leur pose, on essaie d'aller voir comment cette passion-là est vécue. Donc, les passionnés obsessifs, eux autres, ils vivent leur passion comme une force ou une pression qui les oblige à faire leur activité. Donc, ils ne se sentent pas vraiment en contrôle par rapport à leur activité. C'est comme s'il faut toujours qu'ils fassent leur activité. Donc, ils ont tendance à négliger les autres domaines de leur vie parce qu'ils ont de la misère à mettre leur activité de côté. Donc, c'est vraiment de l'obsession par rapport à quelque chose qu'ils aiment quand même. Tandis que les harmonieux, eux autres, ils sont plus capables de faire la part des choses, de choisir quand ils font leur activité ou non. Puis la passion harmonieuse, ceux qui vivent ça, ils vivent beaucoup de bien-être durant leur activité. Ils sont capables de se concentrer sur leur activité. Tandis que les obsessifs, souvent, ils vont être plus anxieux par rapport à leur performance, par rapport à leur succès.
Et les harmonieux réussissent aussi à mettre leur passion de côté, à l'oublier même de temps en temps par rapport aux obsessifs peut-être?
C'est ça, ils sont plus capables de vivre le moment présent. Donc, les recherches qu'on a faites ont montré que les gens qui sont obsessifs, lorsqu'ils ne font pas leur activité, ils sont en train quand même d'y penser. Donc, ils ne sont pas dans le moment présent puis ils ont de la misère à vivre le bienfait des autres activités. Ils sont toujours dans leur activité passionnante. Tandis que les harmonieux, vu qu'ils sont plus en contrôle avec leur choix de faire ou de ne pas faire leur activité, sont plus en paix. Donc, ils peuvent s'investir dans d'autres domaines de vie. Donc, une des grandes différences entre les passionnés obsessifs et les passionnés harmonieux, c'est que les obsessifs, ils font leur activité souvent parce que c'est une façon de se valoriser, c'est une façon d'augmenter leur estime de soi, alors que les harmonieux, ils la font par plaisir puis parce que c'est quelque chose qui leur ressemble beaucoup.
Geneviève Majot du département de psychologie de l'Université de Montréal. À choisir, donc on préfère, Sophie-André, j'imagine, être un passionné harmonieux plutôt qu'un passionné obsessif, ça va de soi.
Oui, ça va de soi. Surtout que les obsessifs ont tendance à être plus rigides, à continuer, par exemple, à performer malgré des blessures. Par exemple, les échecs chez eux sont retentissants parce qu'ils affectent l'estime de soi qui est construite sur leur passion, sur leur performance. Les harmonieux ont souvent, dit-on, un plan B, ce qui relativise les échecs ou les contre-performances. Et pourtant, je le répète, au final, les deux types de passionnés ont des résultats similaires pour les performances. Mais il y en a un qui souffre et l'autre moins.
Oui. Et j'imagine, comme ça se joue tôt dans la vie, la différence, j'imagine que les parents ont un petit quelque chose à voir là-dedans. Hein?
Comment est-ce que les parents contribuent à fabriquer des passionnés obsessifs ou des passionnés harmonieux? C'est des approches différentes qui favorisent l'émergence de passions différentes et les recherches de Geneviève Majot et d'autres aussi montrent que des parents plus contrôlants vont produire des enfants plus obsessifs dans leur passion et que des parents qui encouragent l'autonomie vont produire plutôt des enfants harmonieux dans leur passion.
Dans le fond, quand on essaie d'encourager un enfant à faire quelque chose, on peut soit le faire en respectant l'autonomie de l'enfant ou en étant plus intrusif ou contrôlant. Puis moi, j'ai regardé le rôle de l'environnement social, donc des parents, à quel point que le parent donne un message comme quoi que l'enfant va être davantage valorisé s'il réussit bien dans cette activité-là. Parce que les enfants, ils le sentent. Si un parent, admettons, donne de l'attention à l'enfant seulement lorsqu'il fait cette activité spécifique-là, l'enfant le ressent. Puis, tous les enfants veulent être aimés de leurs parents. Donc, il va avoir tendance à s'investir davantage dans cette activité-là, même si l'intérêt n'est pas nécessairement là. Puis, l'enfant déduit que cette activité-là est un moyen pour atteindre l'approbation des autres. Puis, il va faire son activité pour des mauvaises raisons. Donc, ça va être par culpabilité ou pour atteindre quelque chose qui n'a rien à voir avec l'activité. Tandis qu'un parent qui donne plusieurs choix d'activité à son enfant puis essaie de le guider vers celle qui lui plaît le plus. L'enfant, il a un intérêt vers cette activité-là, puis il peut développer sa passion sans s'inquiéter de qu'est-ce que son parent pense à propos de cette activité-là. Donc, les comportements qui soucient l'autonomie, il y en a trois qu'on utilise en recherche, mais il y en a beaucoup plus que trois. Le premier, c'est d'offrir du choix, parce que la passion, en bout de ligne, c'est une relation privilégiée avec une activité. Donc, on ne peut pas forcer une passion. Il faut que l'enfant trouve l'activité qui lui plaît, puis dans laquelle il peut s'investir. Puis une activité qui lui ressemble. Puis une fois que l'activité est choisie, là, les enfants, leurs intérêts vacillent. Donc, des fois, ils ne vont pas avoir le goût de pratiquer. Admettons qu'un enfant choisit la musique, ça se peut qu'il n'a pas le goût de pratiquer tous les jours. Fait que le parent, son rôle à lui, c'est d'influencer l'enfant à pratiquer ou de mettre une structure. Donc, dans la façon qu'on met des règles puis des demandes à nos enfants, on peut le faire d'une façon qui soutient davantage l'autonomie. Donc, une des façons, c'est de mettre la règle, donc que ça soit clair que l'enfant doit pratiquer, d'essayer de donner du choix dans la façon qu'il va pratiquer, mais de dire c'est clair qu'il faut que tu pratiques si tu t'investis dans la musique, puis de reconnaître le sentiment de l'enfant. Donc souvent, quand on est dans les parcs d'amusement, les parcs de jeux, on entend souvent des parents dire « ben non, t'as pas mal » ou « ben non, t'aimes ça glisser, viens glisser, t'aimes ça glisser ». Alors que dans le fond, on peut juste reconnaître l'émotion de l'enfant sur le moment. Je comprends, oh, ça pas de l'air à tenter de pratiquer aujourd'hui. C'est vraiment dur, des fois, pratiquer à tous les jours. C'est pas long, puis l'enfant se sent entendu, puis se sent qu'il est une personne à part entière dans ce cas-là, puis ça crée une relation de respect où l'enfant va avoir tendance à respecter son parent aussi. Il y a aussi l'aspect d'expliquer la raison d'une règle, pas à chaque fois, mais une fois. Donc, d'avoir une espèce de contrat avec l'enfant que si, admettons, je t'inscris en musique, parce que ça coûte de l'argent, je m'attends à ce que tu pratiques régulièrement. Pourquoi? Parce que si tu pratiques pas, tu pourras jamais maîtriser ton instrument, puis tu pourras jamais retirer du plaisir dans ton activité. L'expliquer une fois au lieu de dire tu pratiques parce que j'ai dit que tu pratiques.
Alors donc, Sophie-André, on comprend la leçon. Hein? Pour fabriquer des passionnés harmonieux, c'est l'important, ça. On donne du choix, on reconnaît les sentiments de l'enfant et on lui explique les règles, mais une fois. Ça, en tout cas, c'est la théorie.
Oui, en pratique, c'est toujours différent. Et là, tous les parents qui nous écoutent le savent. Entre la théorie et la pratique, il y a souvent tout un monde. Eh bien, justement, Geneviève Majot prépare la suite des recherches pour valider tous ces bons conseils-là.
C'est le gros trou dans la recherche en ce moment. On a dit aux parents de pas menacer, on leur a dit de pas punir, on leur a dit de pas crier, mais on n'a pas dit quoi faire à la place. Les comportements qu'on leur dit, c'est de donner du choix, mais le choix, ça marche pas pour renforcer des règles. On a le droit aussi de montrer à nos enfants les règles de la société, puis on doit montrer aux enfants les règles de la société si on veut qu'ils soient accueillis dans la communauté. Donc moi, on est en train, avec une de mes collaboratrices qui est Mireille Joussemet, on est en train de faire des cours de parents qu'on instaure en ce moment dans les écoles primaires pour enseigner comment soutenir l'autonomie. Mais les parents sont très enthousiastes par rapport à cette formation-là, mais nous, on ne sait pas encore si ça marche scientifiquement. Donc, on veut tester, voir si on peut enseigner aux parents à soutenir l'autonomie pour permettre aux parents de mettre une structure, mais sans étouffer l'enfant, puis en respectant le petit individu qui est là.
Geneviève Majot, donc professeure adjointe au département de psychologie de l'Université de Montréal, qui veut donner des cours, qui veut faire des cours de parents, hein, c'est magnifique.
Oui, avoir un diplôme de parent ou de bon parent, imaginez le plaisir.
Ah oui.
Il y a d'autres étapes, d'ailleurs, dans la recherche des gens qui soutiennent l'autonomie, dans la recherche sur la théorie de la passion aussi. On veut voir évoluer les passions dans le temps, suivre donc des cohortes de passionnés, harmonieux et obsessif pour voir si, par exemple, une passion obsessive peut se transformer en passion harmonieuse et vice-versa des fois. On veut aussi étudier l'effet du temps. Ça va permettre de voir comment les passions influencent le passage à la retraite.
Parce que
prendre sa retraite comme passionné obsessif du travail, ça peut évidemment être de mauvais augure.
C'est des grandes études longitudinales.
Ça prend du temps.
Entre le bébé et le retraité, oui.
Absolument. Alors d'ici là, d'ici ces grandes études longitudinales, les parents qui sont intéressés aux cours de parents, à être diplômés de bons parents, peuvent consulter notre site Internet pour savoir qui contacter pour avoir le cours dans leur école primaire.
Merci beaucoup, Sophie André.
Ça me fait plaisir.
Vous écoutez Les Années Lumière, le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Venir en deuxième heure, un petit tour du monde du déneigement des routes.
Le rapport à la neige et au déneigement est très culturel. On va dans d'autres pays, on se rend compte que l'attente de l'usager n'est pas la même. Moi, c'est ce qui m'a frappée quand j'ai commencé dans ce domaine-là. Je me disais, bon, ben OK, on déneige et puis, bon, on pousse la neige, on la ramasse pas, on utilise des fondants ou pas. Mais là, il y a toute cette acceptabilité sociale du niveau de service qui est différente.
C'est le moment de la question de la semaine. Cette semaine, une auditrice qui rajeunit considérablement la moyenne d'âge des auditeurs de Radio-Canada, une auditrice de la relève, donc, nous a posé cette question.
Bonjour, je m'appelle Jeanne, j'ai 6 ans. J'aimerais savoir d'où vient le sel qui est dans la mer.
D'où vient le sel qui est dans la mer? Hein, c'est une bonne question pour répondre donc à Jeanne. Si Jeanne, je le répète, il faut remonter aux origines de la Terre. Et c'est ce qu'a fait Gaëlle Lucia Berdou en s'entretenant avec Jean-Pierre Gagné, spécialiste de la chimie des océans à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski.
Bien, au début, à l'origine de la Terre, il y a à peu près 4,5 milliards d'années, il y avait une atmosphère primitive qui était quand même riche en eau, en gaz carbonique, en chlore, en soufre. Et lorsque la Terre s'est refroidie, à peu près 100 millions d'années plus tard, la vapeur d'eau dans l'atmosphère s'est condensée. Et en se condensant, il y a eu une immense pluie qui s'est développée. Et ces pluies-là ont aussi entraîné des gaz comme le gaz carbonique et le soufre. Et ça produit des pluies acides ces pluies acides ont facilité l'érosion de certains éléments de la croûte terrestre qui ont amené donc des sels vers les océans.
Et c'est un processus qui se poursuit?
Il semble que la composition des océans soit demeurée relativement stable depuis ce temps. Maintenant, il y a toujours des équilibres qui se développent pour maintenir la concentration en sels dans l'eau de mer relativement constante.
Alors, quels sont ces processus-là?
Plusieurs équilibres se développent. D'une part, il y a des processus physiques qui interviennent, comme l'évaporation. Et aussi, donc, les rivières, lorsqu'elles apportent des sels à l'océan, ces sels-là pourraient être concentrés. Et dans les milieux marins, il y a donc un équilibre qui s'établit entre l'évaporation et aussi le piégeage des sels, soit par des processus géologiques et aussi par des organismes qui consomment certains minéraux en faible quantité quand même, tout de même.
Et vous dites que les cours d'eau continuent d'apporter du sel dans la mer. Pourquoi, dans ce cas-là, est-ce que les cours d'eau, les rivières et les lacs, eux, ne sont pas salés?
Les pluies, par exemple, les pluies sont salées, les rivières sont salées, les eaux des rivières sont salées, les lacs sont salés. Maintenant, la proportion de sel que l'on retrouve dans chacun de ces compartiments-là est relativement faible par rapport à l'eau de mer. L'eau de mer est à peu près 5000 fois plus salée que les pluies. Dans le cas des rivières, ben, l'eau de mer est environ 300 fois plus salée que les eaux de rivière. Donc, toutes les eaux naturelles contiennent une certaine quantité de sel. Maintenant, il arrive des processus qui permettent de concentrer quelquefois ces sels-là. Dans les lacs fermés, par exemple, ou encore dans les mers semi-ouvertes comme la Méditerranée. La Méditerranée est une mer très salée par rapport à l'océan ou par rapport aux eaux de lac, parce que l'évaporation dans ce milieu-là est très forte et les apports d'eau douce qui permettent de diluer ces sels-là sont moins importants.
Est-ce que, M. Gagné, les concentrations de sel dans les océans ont une influence aussi sur la circulation de l'eau?
Oui, la présence de sel modifie la densité de l'eau. Et avec la densité, il y a une circulation océanique qui se développe à cause de ces conditions-là.
Donc, une eau salée est plus lourde?
Une eau salée est plus lourde. Maintenant, il y a tout de même une originalité avec ça. Vous savez, les Grecs, au départ, se posaient eux aussi la question pourquoi l'eau de mer est salée. Et Pline l'Ancien, par exemple, indiquait que la salinité de l'eau de mer résultait de l'action de la chaleur. Et que ce n'était que les eaux de surface qui étaient salées et que les eaux profondes, elles, comme elles n'étaient pas en contact avec le soleil, c'était des eaux douces. Par la suite, on a découvert que c'était pas le cas, bien sûr. Et il y a cette eau de mer qui est enrichie en sel, qui est plus dense, elle plonge et elle se met à circuler dans le système marin.
Et c'est un phénomène très important, en fait, dans les océans, ça?
Oui, c'est très important puisque c'est ce qui permet d'avoir ce qu'on appelle la circulation générale et qui peut permettre de transporter les eaux de l'Atlantique au Pacifique. C'est un immense moteur qui permet la répartition du sel, mais aussi la répartition de la chaleur et qui contrôle de nombreux équilibres qui se produisent à la fois dans l'océan, mais aussi près des milieux côtiers qui sont influencés par des apports d'eau douce.
Je vous remercie beaucoup, M. Gagné, pour ces explications.
D'accord, au revoir.
Gaëlle Lucia Berdou s'entretenait avec Jean-Pierre Gagné de l'Institut des sciences de la mer de Rimouski. Je vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions de science, que vous ayez 6 ans comme Jeanne ou que vous en ayez 66 et même, je ne sais pas, moi, 166. Vous pouvez toujours nous téléphoner parce que j'insiste pour que vous fassiez par téléphone. On aime ça vous écouter, vous entendre en ondes. Alors, de la région de Montréal, vous composez le 514-597-6166. D'ailleurs, au pays, et c'est sans frais, vous faites le 1-800-752-9050. Bon, d'accord, on préfère le téléphone, mais il reste quand même le courriel. Je vous rappelle donc lumière@radio-canada.ca. La chronique des années-lumière cette semaine avec Marie-Dominique Beaulieu. Bonjour Marie-Dominique.
Bonjour.
Médecin et professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, il faut le dire, parce qu'on va parler de ce rapport de l'Association des facultés de médecine du Canada qui vient de sortir un rapport sur l'avenir de l'éducation médicale au pays. Est-ce qu'on va changer la formation de nos médecins? On dit qu'il faut des changements importants. Est-ce que c'est ce qui va se passer?
Ah, mais on va voir ça.
Oui.
Mais parlons d'abord de ce qu'il en est de ce rapport. Alors, c'est effectivement donc un rapport important et qui est le résultat, je dirais, d'état états généraux d'envergure sur la formation en médecine et qui, en fait, depuis le rapport qu'on connaît, nous, en éducation médicale, Flexner, il y a une centaine d'années, il y avait eu, effectivement,
1910,
une grande réflexion en Amérique du Nord, pas juste aux États-Unis, donc, qui avait amené, c'était le rapport Flexner, donc, qui avait amené vraiment à ce qui sont encore nos facultés de médecine. On fait du millage sur 100 ans.
C'est un rapport qui a eu de l'effet, effectivement.
Un très gros effet.
Flexner, c'était le nom de, j'imagine, du président du comité.
Oui, qui n'était, c'est intéressant de dire, qui n'était pas médecin, qui était en fait un professeur dans une école secondaire. Il en était le directeur et avait été invité comme enseignant à réfléchir à la formation.
Oui.
Et en fait, ce qu'on recommandait d'abord, c'était que les études médicales soient vraiment basées sur la méthode scientifique et soient beaucoup plus rigoureuses et en fait standardisées. Il y avait énormément de variabilité.
Il faut dire qu'on est au début du 20e siècle. On est en 1910 quand le rapport sort. Oui.
Exactement. Mmh. Et de créer des facultés de médecine et de reconnaître l'importance de développer un corps professoral d'enseignants qui sont dédiés et qui deviennent des universitaires de carrière pour former les futurs médecins.
Et on peut dire que ce rapport n'est pas resté sur des tablettes parce qu'effectivement, c'est ce qui s'est produit.
Exactement.
Et la formation des médecins en Amérique du Nord est fondée sur les résultats de ce rapport.
Voilà.
Depuis 100 ans.
Depuis 100 ans.
C'est pas
alors,
vrai. Alors,
est-ce qu'il faut
100
revoir...
ans après.
100
oui.
ans après. Je pense qu'on peut répondre que oui. Il y a vraiment un besoin de revoir. Et puis, je dirais, si on veut cibler un peu les grandes problématiques, il y a vraiment un consensus donc, sur que la surspécialisation à laquelle on a assisté en médecine, comme dans beaucoup d'autres professions, il faut le dire, qui est vraiment un héritage direct de la vision flexérienne de la formation médicale, contribue actuellement à une fragmentation des services pour les personnes, les patients, les clients, les utilisateurs, parce qu'on assiste à la disparition des spécialités générales, ça a l'air drôle,
spécialités générales.
Et je ne parle pas que de la médecine familiale, mais aussi la chirurgie générale, la médecine interne générale, la formation de médecins, même en étant spécialistes, qui sont quand même des généralistes de leur spécialité. L'autre constat aussi, c'est que la formation n'invite pas à la collaboration entre les professionnels de la santé, alors qu'actuellement, pour vraiment travailler avec les personnes, qui ont des problèmes chroniques de santé, des problèmes complexes, on voit bien qu'il faut travailler en équipe et on voit que la complémentarité des formations, les infirmières ont des choses importantes à faire, les pharmaciens, il faut qu'on change un peu nos pratiques et notre façon d'être formés.
La formation favorise le vase clos.
Beaucoup, la façon avec laquelle les facultés sont organisées. Donc, on a hérité, c'est intéressant de se rendre compte, on marche sur un héritage de presque un siècle. Donc, il y a des
Le rapport de l'Association des facultés de médecine fait ce constat-là, j'imagine?
Tout à fait.
Et propose quoi?
Et donc, fait 10 recommandations. Je n'en soulignerai que quelques-unes pour un peu qu'on ait un peu, la teneur et la saveur. D'abord, on dit que c'est important que les facultés de médecine, assument une responsabilité sociale et donc tiennent compte des besoins des individus, des familles et des communautés dans leur programme.
Quelle bonne idée.
Ça peut vouloir dire de favoriser des cours ou des choses qui étaient peut-être moins favorisées. Promouvoir la prévention et la santé publique.
Deuxième
très bonne idée.
Oui.
Valoriser le généralisme, donc, qui peut avoir l'air surprenant, vu qu'on est dans une culture encore de surspécialité, je dirais même comme société, mais de revenir à vouloir former des médecins qui sont d'abord et avant tout des généralistes, même dans leur spécialité, de développer la collaboration professionnelle et là, une chose importante, diversifier les contextes d'apprentissage, en fait, sortir des hôpitaux universitaires.
Ça, c'est vraiment central dans la formation des médecins.
Et ne pas faire... Oui. de l'hôpital universitaire, l'endroit le plus important de la formation.
Et parfois, presque le seul.
Le seul, parfois.
Oui, c'est ça.
De vraiment aller dans la communauté et s'attaquer à ce qu'on appelle le curriculum caché en pédagogie, qui est en fait un ensemble d'influences impalpables, mais organisationnelles, culturelles, qui fait que les étudiants sentent bien qu'on dénigre encore parfois le généralisme, la collaboration. Donc, s'assurer que ça soit vraiment explicitement des objectifs vraiment assumés, je dirais.
Et qu'est-ce que faire pour arriver à ces bons objectifs?
Alors, il y a énormément de plans d'action là, dans le sens de recommandations. Comme je vous disais, exposer tôt les futurs médecins dans les 4 premières années qui sont déterminantes à des expériences beaucoup plus près de la pratique médicale de tous les jours, que ce soit dans des hôpitaux communautaires, de plus petits hôpitaux ou dans des cabinets, et aussi que ce ne soient pas des formations optionnelles et qu'elles représentent une très grande proportion de la formation.
Ça serait un changement assez considérable.
Ça serait un changement considérable, qui a des impacts aussi. Mm-hmm. Et aussi de favoriser la formation à la collaboration professionnelle et donc des fois d'ouvrir des programmes pour que les étudiants soient parfois formés ensemble, qu'ils soient dans des concentrations d'infirmières, de médecins ou
autre
de pharmaciens.
Autre changement considérable.
Très gros changement considérable.
Si on prend ces deux changements, seulement ces deux changements-là, qui semblent découler du constat, me semble, et des recommandations qu'on fait, c'est important. Est-ce que ce rapport-là va bouleverser, changer l'éducation médicale et vous changer vos façons de travailler, de faire et de former des médecins?
Ben voilà, je dirais c'est à voir. Quand on lit le rapport, je pense que c'est le résultat vraiment de beaucoup de collaboration, ce rapport, mais quand on lit le rapport, on reste un peu sur sa fin, sur vraiment, je dirais, un plan d'action ou même quel suivi l'Association des facultés de médecine va faire. Il y a deux paragraphes sur la suite par rapport à un rapport quand même détaillé sur les recommandations. Alors, moi, je pense que ça va être très important qu'il y ait vraiment des volontés très grandes et à la rigueur aussi des investissements. Parce que actuellement, moi, quand je vois comment on investit et comment on concentre le développement dans les hôpitaux universitaires, évidemment...
Tous les investissements vont là beaucoup, et ça coûte cher.
Oui, l'écart professoral est beaucoup là. Oui. On va vouloir envoyer les étudiants là. Et puis, quand on dit qu'il faut développer d'autres milieux, ben ça va quand même, ça va prendre vraiment plus que juste là.
En un mot, en conclusion, je vous sens un petit peu pessimiste sur l'avenir du changement.
Je pense qu'il va falloir investir dans le changement. Je pense que c'est un beau rapport qui indique les bonnes directions. Mais là, il faut se mettre à l'œuvre et il faut vraiment être décidé parce que je suis pas sûr qu'on va.
Entre les vœux pieux et la réalité.
C'est ça. On verra. C'est à suivre.
Merci beaucoup, Marie-Dominique.
Ça m'a fait plaisir.
Et voilà, c'est la fin de la première heure des Uns et Lumières. Je vous invite ce soir à ne pas manquer la télévision de Radio-Canada à 18h30, Découverte qui parle sports olympiques. Toute l'émission leur est consacrée. Cela dit, vous restez à l'écoute de la radio. Après le bulletin de nouvelles, la suite des Uns et Lumières. Les années-lumière, deuxième heure. Rebonjour, Yannick Villedieu, toujours au microphone avec l'équipe du magazine d'actualité de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Cette deuxième heure, elle commence avec Gaëlle Lucia Berdou sur le projet ambitieux qui veut séquencer les génomes de 10 000 espèces de vertébrés. Après le petit journal de la science, Chantal Srivastava nous fait faire un petit tour du monde de l'art et de la science, du déglaçage et plus généralement de ce qu'on appelle joliment la viabilité hivernale. Et pour terminer, Sophie-André Blondin reçoit l'auteur de la semaine, il s'appelle Vincent Fleury et il a publié « La chose humaine ou la physique des origines » aux éditions Vuibert. Alors, c'est une image qu'on a souvent utilisée à l'époque où on décrivait le fameux projet génome humain au tout début, là. On disait qu'il faudrait l'équivalent de 200 annuaires téléphoniques pour transcrire le génome d'un individu, le code génétique, donc en entier, ou quelque chose d'approchant 200 annuaires. Alors, imaginez la bibliothèque qu'il faudrait pour ranger le génome de 10 000 individus. Gaëlle Lucia-Berdoux, c'est pourtant bien ça que ce que veut faire une équipe internationale de chercheurs, séquencer, décoder l'ADN de 10 000 espèces.
10 000 espèces, il n'y en a que 10 000 vertébrés plus précisément. Ça s'appelle le projet 10 000 génomes et il a été lancé récemment par près de 70 chercheurs. Le but de rassembler tout ce matériel génétique, c'est de mieux connaître ces espèces, des espèces qui, si on en séquence effectivement 10 000, elles vont représenter à peu près un sixième de tous les vertébrés connus. Donc, il y aura des poissons, des reptiles, des oiseaux, des amphibiens, des mammifères. On veut mieux les connaître pour mieux comprendre leur fonctionnement, mais aussi leurs liens entre eux, leur évolution, pour éventuellement, bien sûr, les protéger.
Et j'imagine que parmi ces chercheurs, il y a bien sûr des Canadiens.
Eh oui, notamment ceux du Biodiversity Institute of Ontario, ou l'Institut de la biodiversité, qui est situé à l'Université de Guelph. Ce sont les mêmes chercheurs qui avaient lancé le projet Barcode of Life, ou Code-barre de la vie, si vous voulez. C'était là aussi une sorte de catalogue, un catalogue de fragments d'ADN, donc des petites parties seulement du code génétique, dont l'objectif est de permettre d'identifier plus facilement et surtout plus précisément des spécimens. Donc, ces chercheurs de l'Université de Guelph sont déjà spécialisés dans le séquençage d'ADN et ils se sont lancés dans le projet 10 000 génomes. Rodolphe Ruggeri fait partie de ces chercheurs. Il nous explique un peu plus précisément à quoi ça va servir de connaître le génome de 10 000 espèces, alors que pour l'instant, on n'en connaît que quelques dizaines.
Quand on compare en fait simplement une cinquantaine de génomes distincts chez les animaux, on a une vision qui est forcément très partielle de l'évolution, des points communs et des différences entre les génomes par rapport à une comparaison qui serait beaucoup plus exhaustive et comparée à un ensemble d'espèces beaucoup plus important. Donc on va avoir une vision beaucoup plus précise et on va sans doute comprendre beaucoup mieux la structure, l'évolution et le fonctionnement de notre génome avec ces données.
Alors, est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret d'une question ou d'une hypothèse, d'une théorie à laquelle ces génomes ou cette information pourrait permettre de répondre?
Il y en a beaucoup, mais donc on peut par exemple, on connaît certaines parties du génome humain ou du génome de certains autres organismes qui ont une fonction bien précise, donc qui vont en particulier par exemple intervenir dans la résistance à certaines maladies, donc ou permettre certains fonctionnements cellulaires, et donc si on identifie justement cette partie, donc prenons par exemple l'exemple d'une protéine qui va intervenir pour une résistance à une maladie ou un parasite, si on peut comparer la partie du génome qui code pour cette protéine ou pour cet ensemble de réactions biochimiques, donc si on compare cette partie du génome chez différents organismes, on va pouvoir comprendre son évolution et voir les points communs de cette même partie dans le génome de différents organismes qui vont avoir différentes réactions à ce parasite ou à cette maladie. Donc, par exemple, si un animal justement n'est pas du tout sensible à un parasite et va le tolérer, ce qui est généralement le fruit de la sélection naturelle, observer la partie du génome qui lui confère cette résistance, elle peut nous apprendre et nous guider vers des traitements génétiques ou la détection de certaines sensibilités à des maladies.
Est-ce que ce type d'information peut aussi, par exemple, aider les paléontologues à mieux comprendre ce qui s'est passé avant nous ou chez les espèces qui nous ont précédés?
Oui. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore encore sur l'évolution des vertébrés. Il y a beaucoup de chaînons manquants ou d'éléments qu'on ne connaît pas sur nos ancêtres ou les ancêtres communs qu'on peut avoir avec certains groupes ou en particulier à l'échelle des temps géologiques, à quel moment certains grands groupes de vertébrés ont pu diverger. En général, on estime ces époques de divergence et les relations entre les organismes en construisant des arbres phylogénétiques qui peuvent être basés sur des études de caractère morphologique ou de caractère génétique, donc d'éléments du génome. Mais donc là, en construisant cette banque de données de génome complet pour un beaucoup plus grand nombre d'organismes, on va pouvoir avoir un jeu de données considérable pour reconstruire l'évolution des vertébrés et donc avoir une meilleure idée des relations entre eux. Et on peut aussi utiliser les taux de divergence génétique, les différences entre les génomes pour dater les événements de divergence et mettre ça en relation avec le registre fossile et les informations fossiles qu'on peut avoir. Les paléontologues ont contribué énormément par la datation des fossiles et l'observation de caractère morphologique à connaître l'époque d'origine de certains groupes, mais quand on trouve un fossile, c'est encore une fois souvent une information très partielle puisqu'on sait que tel organisme était présent à telle époque, à tel endroit, mais ça nous donne un âge minimum, on ne sait pas justement, c'est jusqu'à la découverte du prochain fossile, on ne sait pas si finalement cette espèce-là ou cet organisme, ce grand groupe, était déjà présent des milliers ou des millions d'années auparavant.
Le chercheur Rodolphe Ruggeri, donc Gaël, pour décoder le génome humain, le premier qui intéressait les chercheurs, donc c'était au début des années 80, là, 1980, il a fallu plus de 10 ans. 10, 12.
Au moins, ouais, oui.
C'est ça, oui. Et des centaines et des centaines de millions de dollars. Alors, séquencer le génome de 10 000 espèces, ça me paraît un petit peu cher.
Oui, c'est une grande entreprise, en tout cas pour l'instant. Mais en fait, les chercheurs misent sur les améliorations constantes des technologies
sûr,
de séquençage. Ouais, ouais. Hein. Souvenez-vous, l'été dernier, il y a un chercheur américain qui a annoncé qu'il avait décodé son propre génome en un mois pour à peine 50 000 $. Donc, si vous multipliez ça par 10 000 espèces, ça fait encore pas mal cher, j'en conviens. Mais on s'approche du but, nous dit Rodolphe Ruggeri.
Le budget total du projet pour les 10 000 génomes a été chiffré, je crois, entre 50 et 100 millions de dollars, qui représente, donc si c'est 100 millions de dollars, ça fait quand même un coût au génome qui est dérisoire comparé à ce que ça coûte aujourd'hui. Certains génomes qui ont été faits récemment ont coûté, chez les vertébrés, ont coûté environ 500 000 dollars par génome. Le coût actuel ne permet pas, évidemment, de faire 10 000 génomes avec un si petit budget, mais en effet, les progrès technologiques qui sont faits en matière de séquençage avec les séquenceurs de nouvelle génération laissent envisager qu'il sera possible dans les 5 ou 10 ans à venir à séquencer un génome pour entre 1000 et 5000 dollars si on inclut toute la partie analytique, parce qu'évidemment ça génère aussi énormément de données et donc il faut suivre en matière de bioinformatique et analyse des données. D'un point de vue technique, la grosse différence, c'est qu'on va être, les nouvelles méthodes de séquençage sont capables de produire des fragments de séquences, de lire des fragments de séquences du génome à un rythme beaucoup plus élevé, mais de petits fragments. Et donc, on peut reconstruire des génomes entiers en séquençant simplement des petites phrases du génome, mais en faisant justement, en pouvant faire des millions à bas coût et très, très rapidement, on pourra de plus en plus se rapprocher d'un objectif où on peut faire justement des milliers de génomes en quelques années.
Donc ça, ce sont des prévisions qui sont sur quelques années, justement. Mais d'ici là, d'ici à ce que cette technologie soit disponible et assez peu chère, ça ne veut pas dire que les chercheurs n'ont rien à faire en attendant?
Non, bien sûr. Il y a tout un aspect logistique au projet qui demande énormément d'organisation et de préparation. C'est que trouver déjà 10 000 espèces, il faut choisir les 10 000 espèces de vertébrés parmi les 60 000 qui sont des candidats intéressants pour le génome. Il faut s'assurer qu'on a accès à du matériel convenable. Donc il faut des tissus ou des cultures de cellules préservées dans des conditions idéales pour pouvoir séquencer le génome. On va pas pouvoir simplement aller dans un muséum et prendre un spécimen ancien et en séquencer le génome. Il faut du matériel qui soit particulièrement frais et bien préservé. Donc tout ça, il faut le préparer déjà. Et donc le consortium qui travaille sur ce projet a déjà mis en place une base de données d'environ 16 000 échantillons de tissus, donc qui pourraient convenir et qui sont distribués, qui sont répartis dans des collections et dans des laboratoires dans le monde entier, qui pourraient convenir pour ce projet. Donc c'est très encourageant, mais c'est aussi un travail considérable de s'assurer de la disponibilité et de la qualité de ces échantillons.
Rodolphe Ruggeri de l'Institut de la biodiversité de l'Université de Guelph en Ontario. Alors Gaël, maintenant, on comprend, il faut choisir les espèces qu'on va séquencer et surtout les spécimens qui pourront fournir leur ADN à ce projet-là. Où est-ce que les chercheurs vont aller les chercher, tout ça?
Eh bien, ils vont notamment se tourner vers des musées. Il y en a plusieurs qui sont impliqués dans le projet déjà, mais aussi dans des banques de spécimens, comme il s'en est créé quelques-unes au cours des dernières années. Par exemple, la Frozen Ark, ou l'Arche gelée, qui
oui.
a été mise sur pied à l'Université de Nottingham, en Grande-Bretagne. C'est littéralement une Arche de Noé frigorifique que dirige Olivier Anotte, un projet qui tente de sauvegarder des spécimens ou des tissus d'espèces disparues ou encore en voie de disparition. Et c'est là que l'aspect conservation du projet 10 000 génomes prend tout son sens. On écoute justement Olivier Anotte.
Ces espèces, ces échantillons que nous avons dans nos frigos, représentent une source unique de matériel biologique. D'une part, certains de ces animaux sont devenus excessivement rares et les rééchantillonner représentent un major challenge. Et d'autre part, comme les espèces en danger sont souvent des espèces, spécialisées ou des espèces qui vivent dans un habitat bien spécifique ou des espèces qui ont des adaptations bien particulières, elles représentent des espèces importantes si on veut comprendre l'arbre évolutif, en fait, des vertébrés.
Alors, l'un des objectifs de ce projet 10 000 génomes, c'est justement d'aider à la conservation de certaines espèces parmi les 10 000 dont le génome sera séquencé. En quoi est-ce que de connaître cette information génétique va aider à la conservation de ces espèces?
Oui, c'est en effet une de nos espérances, c'est qu'en étudiant le génome de ces 10 000 espèces qui comprendra l'étude d'espèces en danger, on aura une clé, une nouvelle clé pour comprendre pourquoi certaines espèces sont plus susceptibles de disparaître, sont plus affectées par les changements de milieu que d'autres espèces. Et ça reste un mystère. Bon, il y a des groupes d'organismes, par exemple les amphibiens, plus particulièrement les grenouilles, qui sont pour l'instant affectés par une infection, par un champignon. Et certaines espèces sont fortement affectées, les populations déclinent fortement et disparaissent. Et puis d'autres espèces apparemment très proches semblent être protégées de cette infection. Pourquoi? Qu'est-ce qui les distingue au niveau de leur génome? C'est par exemple une des réponses que pourrait apporter ce projet.
Est-ce qu'il y a autre chose que vous espérez de ce projet?
Oui, je crois que ce projet est important aussi parce que jusqu'à présent, tous les efforts de séquençage se sont concentrés en très grande majorité sur l'espèce humaine. Et on a un peu oublié, en fait, que finalement, l'espèce humaine, c'est juste un animal qui a toute son histoire. Si on veut comprendre l'espèce humaine, et si on veut comprendre d'où il vient, toute son histoire, mais il faut comprendre le reste de l'arbre évolutif. Et donc, ce projet va, je crois, apporter énormément à notre compréhension de ce que nous sommes et d'où nous venons.
D'où nous venons, effectivement. Olivier Anote, chercheur à l'Université de Nottingham, qui propose d'élargir nos horizons, Gaëlle.
Et oui, c'est la pensée du jour, Yannick. Parfois, pour en apprendre sur soi, il faut regarder les autres.
Oh, c'est beau, c'est beau. Merci, Gaëlle.
Je vous en prie.
L'observatoire Solar Dynamics a pris le chemin des étoiles cette semaine. De l'étoile, en fait, puisque le satellite est destiné à étudier une seule étoile, notre Soleil. Solar Dynamics Observatory sera en orbite géostationnaire pour les 5 prochaines années. Il doit acquérir des images du Soleil pour expliquer les variations dans son activité. Certains éléments de cette activité, comme les vents solaires, peuvent perturber le fonctionnement des satellites, des systèmes informatiques et des réseaux électriques sur Terre. Les scientifiques veulent donc améliorer leur capacité de prévoir de tels événements. Les instruments de SDO vont scruter l'intérieur, la surface et l'atmosphère du Soleil à la recherche d'indices sur ses cycles d'activité. La résolution de ces images, qui nous parviendront tous les 10 secondes, sera 10 fois supérieure à la résolution des caméras de télévision à haute définition.
Contrairement au cheval, au chat ou à l'humain, lorsqu'il court, l'éléphant garde toujours un point de contact avec le sol. Est-ce à dire qu'il ne court jamais? Et qu'en est-il lorsqu'il se déplace ainsi à 15 ou 20 km à l'heure? Pour répondre à toutes ces questions, des chercheurs ont transporté une plateforme ultra robuste en Thaïlande afin de mesurer les forces à l'œuvre lorsqu'un éléphant se déplace. Résultat, l'éléphant marche et court en même temps. Il trotte avec ses pattes avant et marche avec ses pattes arrière. Ces résultats viennent d'être publiés dans le Journal of Experimental Biology.
Le patron du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, s'est de nouveau retrouvé dans l'eau chaude cette semaine. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour les courriels échangés par certains membres de son groupe ou à cause d'une erreur dans leur rapport sur les changements climatiques au sujet de la fonte des glaciers. Non, cette fois, Rajendra Pachauri est sur la sellette pour ses velléités littéraires. Le chercheur a publié un roman dans lequel un héros qui lui ressemble enseigne la méditation à des jeunes filles en fleurs. Ce ne sont pas tant les aventures sexuelles relatives relatée dans ce livre en partie autobiographique qui font scandale, mais sa mise en marché, car la publication et la promotion de l'œuvre ont été assurées par le chef d'un grand conglomérat industriel indien qui fait notamment dans la pétrochimie et la prospection gazière, une relation qui n'a pas l'air de plaire aux écologistes.
Alors voici Frenette qui s'attaque maintenant au bout de la serrure. Now he's trying to succeed with the keyhole. Very technical obstacle. Oh, unfortunately, he touched. So.
Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est quelque chose d'assez rare. C'est un document. Il s'agit de la première compétition internationale. Probablement une future discipline olympique de chasse-neige. Écoutez bien, un événement qui s'est déroulé cette semaine, non pas à Vancouver, mais à Québec, en marge du 13e congrès sur la viabilité hivernale organisé par l'Association mondiale de la route. Chantal Srivastava, vous étiez là pour ça.
J'ai vu ça de mes yeux vus, Yannick. Alors, la vénérable Association mondiale de la route qui a été créée, imaginez, en 1909, il y a plus d'un siècle, alors que les feux de signalisation n'existaient même pas. Fait à signaler, c'est la première fois que cette rencontre sur la viabilité hivernale se tenait en Amérique du Nord. Près de 1000 participants d'une cinquantaine de pays ont assisté à l'événement où on proposait plus d'une centaine de présentations techniques sur des thèmes allant de la météo routière jusqu'à l'utilisation des selles de déglaçage, sans oublier bien sûr le championnat de chasse-neige,
fondamental,
qui est en réalité un concours d'habileté pour des conducteurs qui abordent un camion 10 roues armé de ce qu'on appelle communément des grattes, doivent éviter les obstacles le long d'un parcours de 250 mètres. Alors, soit dit en passant, l'épreuve a été remportée par un Américain.
Ouais.
Les Américains qui ont bien besoin de bons conducteurs de chasse-neige,
oui,
par les temps qui courent. Alors, c'est justement en compagnie d'un Américain de Washington que je vous propose de commencer ce tour d'horizon du Congrès sur la viabilité hivernale. Il s'appelle Paul Pisano. Il est chef d'équipe et responsable de la gestion de la météo routière au ministère américain des Transports.
Je suis venu en avion. J'ai été vraiment chanceux. J'ai réussi à décoller une heure avant le début de la tempête. Notre plus grand défi, c'est bien sûr de maintenir les routes dégagées. Mais pour y arriver, nous devons prévoir ce qui s'en vient. C'est ça l'objectif de notre programme de gestion de la météo routière. Transmettre à la bonne personne la bonne information dans le bon format, au bon moment, afin de prendre la bonne décision. Nos technologies et nos systèmes doivent donc être déployés peu importe qu'il y ait ou non des événements météo extrêmes. En fait, ce qui nous préoccupe surtout, ce sont les petites plaques de glace sournoises ou les averses de neige isolées. Ces phénomènes sont difficiles à prévoir, mais ils peuvent être très dangereux si les automobilistes ne sont pas au courant. Dans le cas des grosses tempêtes, les gens sont informés. Le défi pour nous, c'est plutôt de prévoir tous les autres désagréments que nous réserve la météo.
L'Américain, donc, Paul Pisano de Washington. Chantal, il n'avait pas l'air trop énervé par les tempêtes qui se sont abattues en série sur la capitale américaine.
Pas du tout. Pour lui, le nerf de la guerre, Yannick, c'est la météo routière.
Oui.
Alors, il veut savoir non seulement le temps qu'il fait, mais également quel est l'état de la chaussée. Fait à noter, il y a présentement aux États-Unis près de 2400 stations de météo routière en utilisation. Et Paul Pisano me disait également que dans le cadre d'un projet appelé IntelliDrive, les ordinateurs de bord de nos voitures pourraient peut-être un jour devenir de précieuses sources d'informations. Par exemple, est-ce que les essuie-glaces fonctionnent? Le système anti-patinage se met-il en marche? Mais pas à distance. Alors, autant de renseignements qui pourraient, croit-on, permettre de mieux évaluer à distance l'état des routes. Un projet pilote est d'ailleurs en cours dans la région de Détroit où 10 voitures jouent le rôle de sentinelle. Cela étant dit, en matière de neige sur la route, il faut d'entrée de jeu savoir que tout est relatif. Comme nous l'explique Anne-Marie Leclerc, présidente de l'Association mondiale de la route et sous-ministre adjointe à Transport Québec.
La neige suédoise n'est pas comme la neige québécoise. Et là, on dit ça, puis évidemment, c'est des flocons, puis c'est de la neige, puis c'est de la pluie qui glace. Mais non, c'est pas pareil.
Quelle est la différence?
L'humidité qui est contenue dans la neige, le type de température qu'on a. Nous, on est épouvantablement abîmés par des soubresauts de la température. Vous le savez, au Québec, il peut faire plus 5 une journée, puis le lendemain, il fait moins 25. Ça, ça s'appelle un choc thermique. Donc, la neige qui est au sol, qui a subi le plus 5, a commencé à fondre. Elle a subi le moins 25, elle est complètement gelée. Et là, il reneige par-dessus ça. On n'a pas les mêmes conditions. Et le deuxième élément est clairement les attentes de la population. Le rapport à la neige et au déneigement est très culturel. Moi, c'est ce qui m'a frappée quand j'ai commencé dans ce domaine-là. Je me disais, bon, ben OK, on déneige et puis, bon, on pousse la neige, on la ramasse pas, on utilise des fondants ou pas. Mais là, on va dans d'autres pays, on se rend compte que l'attente de l'usager n'est pas la même, qu'on accepte dans certains pays d'abaisser la vitesse de circulation de 10 ou 20 km/h en période hivernale. C'est correct. On accepte de rouler sur la neige. Ici, on n'accepte pas de rouler sur la neige. Donc, il y a toute cette acceptabilité sociale du niveau de service qui est différente et avec laquelle les administrations doivent composer. Donc, nous, on compose avec ça, nos collègues aussi. Mais méfiez-vous des comparaisons d'un pays à l'autre parce que les conditions d'enneigement ne sont pas les mêmes, puis les conditions de gel, de dégel, d'eau présente sur le réseau ne sont pas du tout les mêmes non plus. Alors, il faut faire attention à ça.
Oui, il faut faire attention aux comparaisons en matière de déneigement, hein, vient de nous dire Anne-Marie Leclerc, qui est présidente de l'Association mondiale de la route.
Première fois pour une Nord-Américaine, première fois pour une femme d'ici en plus. Mm-hmm. Alors, elle faisait référence, Mme Leclerc, à la Suède, et justement, j'ai rencontré une Suédoise qui participait cette semaine à ce congrès sur la viabilité hivernale. Elle s'appelle Gudrun Åberg. Elle est mathématicienne de formation. Elle travaille à l'Institut suédois de recherche sur les transports et la route. Pour vous donner une idée des différences qu'on observe entre la Suède et chez nous, elle me disait qu'en Suède, les pneus d'hiver sont obligatoires seulement lorsque les conditions climatiques l'exigent et que ce sont les policiers qui décide s'il est nécessaire de les utiliser ou pas. Une mesure qui a été adoptée par souci pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un jeu de pneus supplémentaires, me disait-elle. Donc, l'impact socio-économique fait partie des variables qu'on étudie de près à l'Institut suédois de recherche sur les transports de la route. Cela étant dit, on verse aussi, bien sûr, dans l'ingénierie, dans la science. Gudrun Åberg nous donne ici un aperçu de ce qu'on peut faire dans le simulateur de son institut.
You can drive a passenger car.
Vous pouvez conduire toutes sortes de véhicules. Sur un écran, devant vous défile la route et le paysage. On peut faire en sorte que la route soit glissante ou pas et modifier ainsi plusieurs paramètres pour évaluer comment les gens réagissent. Ce qu'on a pu constater, c'est que les gens sont surtout influencés par ce qu'ils voient. Par exemple, si la route est glissante, ils seront portés à ralentir s'ils voient sur leur indicateur de vitesse qu'ils entrent dans une zone rouge. Il faut maintenant trouver comment transposer tout ça dans de vraies voitures. Développer une infrastructure qui permettrait aux voitures de communiquer entre elles. Une voiture pourrait ainsi signaler la présence de plaques de glace aux voitures qui la suivent.
Alors, c'était donc Gudrun Åberg de l'Institut suédois de recherche sur les transports et la route. Elle était donc, elle participait au congrès mondial de la viabilité hivernale à Québec où vous étiez cette semaine et où vous avez rencontré une très importante délégation du Japon.
Je vous ai même rapporté un petit cadeau, Yannick. C'est ici, une petite bouteille de gravillon, tenez, comme celle qu'on propose aux piétons à Sapporo, sur l'île d'Hokkaido. Non, ce n'est pas un maracas, un instrument de musique. Alors, c'est ce qu'on propose sur l'île d'Hokkaido, dans le nord du Japon, dans la ville de Sapporo, où près de 2 millions d'habitants vivent et où ils tombent 6 mètres de neige par année. C'est presque un record mondial. Et donc, les piétons, grâce à ces petites bouteilles, sont mis à contribution pour entretenir les trottoirs. Il faut dire que chaque année à Sapporo, jusqu'à 800 personnes doivent être transportées à l'hôpital en ambulance après être tombées sur les trottoirs glacés.
C'est pas Montréal, ça? Non.
Non. Une information que je tiens de Fumi Hirohara du Centre de développement de l'ingénierie d'Hokkaido. Les autorités ont donc stratégiquement placé des distributeurs pour des bouteilles comme celle-ci, qui est en fait une petite bouteille de plastique contenant à l'origine du thé qu'on aurait utilisé. Et ce n'est là qu'une des avenues empruntées par les Japonais pour mieux circuler l'hiver, comme le raconte Fumi Hirohara.
We used to study tires.
Avant, on utilisait des pneus à crampons, sauf que ça faisait beaucoup de poussière. Alors, à cause des risques pour la santé, le gouvernement les a interdits. Après ça, le nombre d'accidents a augmenté en flèche. Et comme on n'avait pas assez d'équipement pour épandre du sel et des abrasifs, on a développé des systèmes de routes chauffantes, surtout pour les routes en pente et les intersections dangereuses, sauf que ça coûte très cher à construire et à entretenir. Au cours des 20 dernières années, on a donc développé davantage les technologies d'épandage du sel et de déneigement. Cela étant dit, il y a encore des systèmes de routes chauffantes. courante, mais on utilise des énergies renouvelables, comme par exemple la chaleur des eaux thermales, l'énergie solaire ou éolienne, ou la chaleur qui provient des rejets des usines.
Ouais, intéressant, des routes chauffantes. L'ingénieur donc Fumihiro Hara de Sapporo au Japon.
Sapporo, où depuis le milieu des années 60, on a installé pas moins de 463 systèmes pour chauffer les routes, Yannick. Ouais. Mais ce genre de technologie coûte cher, M. Hara l'évoquait. Cela étant dit, j'ai pu également constater, durant ce congrès sur la viabilité hivernale, qu'il y a aussi de la neige sur les routes dans des pays qu'on associe plutôt d'emblée à la chaleur, au soleil, comme par exemple le Maroc.
Ben voyons donc.
Je vous propose d'ailleurs d'écouter à ce sujet Mohamed El Mounir, un des représentants du ministère de l'Équipement et des Transports marocains, qui était à Québec cette semaine.
Nous avons plus de 5000 kilomètres de routes qui sont enneigées chaque année. Parce que le Maroc, donc, au sud, c'est le désert. Au milieu, il y a des chaînes, donc, du Grand Moyen et Haut Atlas. Et au nord, on a le Rif. Donc, on a des altitudes qui dépassent toujours les 2000 à 3000 mètres. Et nos routes, elles sont dans ces sommets-là.
Est-ce que vous avez des problèmes particuliers pour faire le déneigement?
Les problèmes particuliers, donc, ce sont surtout dans les deux dernières années, donc avec ce changement climatique où on a eu surtout l'année dernière des chutes de neige importantes. Et notre ministère, donc, il est conscient de ça. Et là, on renforce d'une année à l'autre le matériel, parce qu'il faut beaucoup de matériel pour faire face à ce changement climatique. Et surtout, nous, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est les fonds routiers. Même si on a un fondant routier spécial, donc c'est la pozzolane, ce sont des sables, donc des cendres volcaniques issus des volcans. Donc c'est un matériau qui est abrasif, poreux, de densité égale à 1, il a une certaine chaleur. Donc c'est le meilleur fondant routier que nous avons, on l'utilise à chaque fois. Et on utilise aussi le sel. Et aussi on est là pour prendre connaissance surtout des nouveautés concernant le matériel de déneigement.
Mohamed El Mounir, du Maroc, donc, qui en a profité, j'imagine, Chantal, pour magasiner quelques chasse-neige à Québec.
Il avait vraiment l'embarras du choix cette semaine à Québec,
oui.
Yannick, parce qu'en marge du congrès se tenait également une exposition avec en vedette, vous auriez aimé ça, des lames de toutes sortes, des chaînes pour les pneus, sans oublier, bien sûr, de rutilants engins stationnés pour l'occasion sur le beau tapis immaculé du hall d'exposition. C'est d'ailleurs à côté d'un modèle de camion 10 roues développé tout récemment chez nous que j'ai rencontré Marc-André Bois, ingénieur au Centre de gestion de l'équipement roulant à Transport Québec. Ici, on a quoi? On appelle ça les pelles?
C'est ça, c'est l'aile chasse-neige.
Oui.
C'est la partie qu'on retrouve sur le côté. C'est ça, galvanisé.
C'est gris, donc, plutôt que d'être jaune.
C'est gris comme un pylône d'Hydro-Québec ou une glissière de sécurité. C'est un camion de déneigement qu'on a fabriqué au Centre de gestion de l'équipement roulant avec une préoccupation plus environnementale. Galvanisation, c'est un procédé d'un traitement de surface et puis ça évite de mettre de la peinture. On pense que ça va nous permettre de durer la durée de vie du véhicule. L'équipement va faire sa vie entière sans avoir besoin de refinition, de peinture.
Alors, quand on utilise ce genre de camion-là, ici au Québec, quel genre de préoccupations on a? Comment ça influence le type d'équipement qu'on utilise? Parce qu'on voit ici au salon, il y a différents types de camions. Qu'est-ce qui fait qu'ici, on a fait ce choix technologique-là?
Ah, ici, c'est un mélange. Celui-là, il représente vraiment un camion typique utilisé au ministère des Transports, avec le chasse-neige, l'aile chasse-neige, l'épandeur 9 mètres cubes. C'est vraiment typique. Si on compare avec d'autres camions européens qu'il y a ici, on peut dire que c'est moins sophistiqué, mais c'est beaucoup plus robuste.
En quoi c'est moins sophistiqué?
Il y a moins de systèmes hydrauliques. Comme si on prend le camion de la Suède qui est là, on voit là, il y a plein de cylindres hydrauliques de fonction, des roues supplémentaires, une espèce de lame rotelante en arrière. C'est des choses qu'on pourrait utiliser, mais qui sont moins fiables, je pense, au Québec sur l'utilisation qu'on en fait.
Je soupçonne, M. Bois, que vous avez regardé un peu ce qui se fait ailleurs dans le monde. Hein?
Oui.
Il y a des beaux jouets ici.
Oui, oui.
Est-ce qu'il y a des choses que vous dites « Oh, wow, ça, j'aime ça ».
Oui, ça, c'est vraiment celui-là ici, là, le camion suédois, je pense. C'est vraiment une idée étonnante. Il y épand de l'eau chaude avec du sable. L'idée, c'est de faire un papier sablé sur le chemin. L'eau chaude est déposée sur la chaussée avec du sable par-dessus. Là, il y a une réaction, ça gèle là. Le sable est vraiment collé sur la chaussée. C'est une solution qui travaille, qui est vraiment étonnante. Au Québec, je pense qu'il y aurait des réactions si on se lançait là-dedans. Là.
Quel genre de réaction?
Ben, les gens seraient un peu surpris. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Chez eux, ils mettent pas nécessairement la chaussée à l'asphalte. Il y a un fond de neige durci, puis finalement, on roule sur le fond de neige durci, puis le sable est par-dessus. C'est intéressant.
Ben écoutez, je vous remercie beaucoup pour la petite visite. Merci.
Merci.
Alors, Chantal, donc, vous avez vu des bien beaux camions à Québec, chanceuse. Donc, c'était Marc-André Bois du Centre de gestion de l'équipement roulant à Transport Québec.
Et j'ai pas vu que des camions, Yannick, hein, parce qu'il y avait des kiosques d'information sur les fondants, les abrasifs, comme entre autres le stand du Japon, où on expliquait qu'avec des résidus de pommes, de poissons et même de mollusques, on peut améliorer l'état de la chaussée. Et les innovations ne s'arrêtent pas là. Je vous propose d'ailleurs d'écouter à ce sujet Jean-Claude Turchi, ingénieur communal à La Chaux-de-Fonds en Suisse. Il est venu à ce congrès pour présenter son invention, un produit commercialisé sous le nom de Stop Glisse Bio.
Alors, ce sont des petits copeaux, des flocons un peu, des flocons de bois qui ont été imprégnés avec une saumure, donc un mélange de sel, d'everglaçage et d'eau.
Qu'est-ce qui vous a amené à développer ce produit-là?
Alors, c'est justement les désavantages des produits classiques, le sable qui fait beaucoup de poussière, le sel qu'on utilise en grande quantité. Et c'était de trouver un matériau qui soit plus écologique. Et on est dans une région un peu comme vous, avec beaucoup de bois, de forêts. Et on est parti sur justement un produit qu'on trouvait facilement dans notre environnement. Et puis, l'enrobage de sel nous est venu à l'idée pour incruster ces plaquettes de bois dans la glace, de façon à les figer et avoir une structure beaucoup plus stable et qui assure une bien meilleure sécurité pour l'usager, le passant.
Alors, vous l'avez utilisé à La Chaux-de-Fonds?
Alors, nous l'avons utilisé, nous l'avons développé. Nous l'utilisons maintenant à grande échelle à La Chaux-de-Fonds. Tous nos trottoirs sont entretenus cette année, cet hiver, avec ces fameuses plaquettes de bois.
Donc, c'était Jean-Claude Turchi de la ville de La Chaux-de-Fonds en Suisse qui a inventé ces petits copeaux de bois que j'ai sous les yeux dans un petit sachet. Ça s'appelle des Glätte Schrotschmittel. Ça veut dire antidérapant en allemand, bien sûr. Alors, ça rappelle un peu, hein, ça ressemble à du paillis qu'on met dans nos pelouses, dans nos plates-bandes. C'est sûrement moins dommageable, j'imagine, pour les parquets que les gravillons qui abîment ces temps-ci les planchers de Montréal, les gravillons qu'on rentre de dehors.
Oui, ouais. Probablement que c'est moins dommageable. Oui. Mais en tout cas, c'est une invention simple qui est très ingénieuse. Et d'ailleurs, je dois vous dire, Yannick, que j'ai été frappée cette semaine par l'ingéniosité dont font preuve certains chercheurs. Comme par exemple ce physicien que j'ai rencontré et qui n'avait jamais mis les pieds auparavant dans un congrès sur la route. Il s'appelle Patrice Bourson, il est professeur au laboratoire matériaux optiques, photoniques et systèmes de l'Université Paul Verlaine de Metz en France. Il nous explique ce qui l'a amené à Québec.
Je suis un pur universitaire, moi je suis un physicien, donc rien à voir avec les gros engins de déneigement. Moi je suis un spécialiste de la spectroscopie Raman, c'est-à-dire mettre un laser qui va regarder la matière, analyser la matière. J'analyse plein de choses, j'ai fait du médical, de la physique fondamentale, et j'utilise cette spectroscopie qui est vraiment extraordinaire. Et là, je l'ai développée pour aller mesurer ce que vous avez sur votre trottoir, le sel résiduel que vous mettez sur votre trottoir, qui va polluer votre nappe phréatique après, qui va oxyder vos infrastructures, qui va un peu détruire votre voiture. Donc moi, j'ai fait un capteur pour contrôler cette quantité de sel qui est sur la route. En fait, la spectroscopie est une signature de toutes les vibrations de la matière. Donc on va regarder comment, par exemple, les molécules d'eau vont vibrer. Et donc quand on va rajouter du sel, ces molécules d'eau vont vibrer différemment. Donc on va contrôler la vibration de ces molécules d'eau et de la présence de sel qui va modifier cette vibration. Donc c'est comme une signature, chaque spectre Raman, chaque pic qui est dans cette spectroscopie, c'est une signature de toutes les vibrations que vous avez dans la matière. Donc c'est une empreinte digitale de votre matériau. Et donc quand on va mettre du sel, eh ben, on va changer l'empreinte digitale de l'eau. Et donc on va voir quelle est la quantité de sel qui est dans l'eau.
Comment vous en êtes venu justement à appliquer cette technique-là dans le domaine de la route?
Et vous savez, en France, tout commence par un repas. Donc j'ai rencontré lors d'un repas un ingénieur des ponts et chaussées. Donc c'est chez nous, c'est eux qui règlent la route. J'ai parlé de ma spectroscopie et du coup, ben, il a dit, et si on l'appliquait à la route? Et c'est venu une aventure extraordinaire qui a commencé il y a 3 ans. Et on en est maintenant à proposer des capteurs pour les utilisateurs.
Pour quand la commercialisation?
Alors, je suis venu à ce congrès pour faire ça. Moi, mon travail va s'arrêter bientôt parce que je n'ai pas les moyens, en tant qu'universitaire, d'aller vers le capteur, d'aller vers l'utilisateur. Donc maintenant, je cherche des contacts pour pouvoir passer à une autre étape, c'est-à-dire commercialiser ce capteur. Donc nous, on doit finir ça dans un an.
Donc le physicien Patrice Bourson, qui venait de Metz en France, il est venu présenter à Québec son capteur qui mesure la quantité de sel.
Et qui n'est pas prêt à être installé sur les camions, bien sûr, mais quand même, les gens du ministère ici surveillent de très près où tout cela va nous mener.
Merci beaucoup, Chantal.
Je vous en prie.
Et si les lois de la physique avaient tout autant à voir dans les formes du vivant que les lois de la génétique? C'est ce que propose en tout cas Vincent Fleury. Il est physicien spécialisé dans la morphogénèse. Il est chercheur au laboratoire Matière et Systèmes Complexes du Centre National de la Recherche Scientifique à Paris. Dans son livre « La chose humaine ou la physique des origines » publié chez Vuibert, il envisage justement les embryons du vivant comme des choses, comme une matière soumise aux lois de la physique, en plus bien sûr d'être influencée par la génétique. Sophie-André Blondin a invité Vincent Fleury dans notre studio de Paris pour discuter de cette idée qui vient bouleverser, disons bousculer, les aspects biologiques de la sélection naturelle.
Vincent Fleury, bonjour.
Bonjour.
Avec ce livre, La chose humaine ou la physique des origines, vous nous proposez de mettre de côté, de faire une infidélité peut-être à la biologie, à la biochimie pour comprendre les origines de l'homme. C'est par la physique des matériaux, la physique des écoulements que vous comprenez la formation, la genèse de cette chose que nous sommes, l'humain ou le singe ou le serpent d'ailleurs. Alors pour vous, c'est dans la physique qu'il faut chercher les réponses.
Alors, c'est-à-dire, il faut bien comprendre que les animaux, avant d'avoir la forme que nous leur connaissons, mettons un chat, une chèvre, un humain, ils sont à peu près sphériques. Les ovules, les premiers stades des œufs, c'est un peu sphérique. Et puis en quelques heures, en fait c'est très très rapide, ça prend la forme d'un animal reconnaissable. Donc aujourd'hui, on peut filmer très précisément ces étapes et on voit qu'en réalité, ce sont des écoulements. Un peu comme de la pâte à modeler ou du miel qui s'écoule. Et la génétique fixe, disons, certaines quantités, mais elle ne fixe pas la nature même des écoulements, qui est proprement physique.
Quelque chose qui s'écoule, c'est quelque chose qui va dans une direction, qui a un sens. Et ce sens, cette direction, ils sont dictés par l'environnement, par les lois physiques. Alors, entre la première cellule ronde et cet écoulement qui va donner soit un poulet, soit un bébé, que se passe-t-il? Comment est-ce que les choses se jouent?
Alors, il faut comprendre que lorsque vous étalez, mettons, du miel ou du yaourt ou de l'eau, les lois physiques, qui sont les lois de l'hydrodynamique en l'occurrence, sont les mêmes, mais le résultat final va être un peu différent suivant les propriétés matérielles du liquide qui s'écoule. Donc, en réalité, la génétique qui fixe les concentrations, les rigidités, toutes sortes de paramètres physiques des embryons, une fois qu'elle a fixé ces paramètres physiques, la loi physique d'écoulement va faire un animal un peu différent à chaque fois.
Et la plupart du temps, va faire, si on parle des mammifères ou en tout cas des tétrapodes, va faire un animal qui a quatre membres, soit deux bras, deux jambes, quatre pattes, parce que en se multipliant, en poussant, le matériau va nécessairement vers cette forme-là.
Voilà. Alors ça, je dirais, c'est peut-être une grande découverte et c'est l'objet de beaucoup de controverses à l'heure actuelle. Quand on regarde un animal, mettons comme un humain, il a deux bras et deux jambes. Alors jusqu'à il y a quelques années, pour la biologie du développement et pour l'évolution, c'était le fruit du hasard, c'est-à-dire vous aviez deux bras qui pchit poussaient quelque part à un endroit qu'on appelle les épaules, et puis pchit deux jambes qui poussent à un endroit qu'on appelle les hanches. Et c'est ça qui faisait des tétrapodes, des animaux à quatre pattes. Ils étaient vraiment contingents, le fruit d'un hasard génétique. Or en réalité, il existe une autre solution, une autre explication au même phénomène. C'est la chose suivante, c'est que lorsque quelque chose s'aplatit, eh bien, il a tendance à faire une bosse vers la gauche et une bosse vers la droite par rapport à la direction dans laquelle il s'aplatit. Si vous appuyez avec votre pouce sur de la pâte à modeler, vous voyez bien qu'elle va faire une bosse à droite, une bosse à gauche. Dans ce cas, les épaules et les hanches sont issus d'un processus global qui met en forme l'animal dans sa totalité. Or, il semble bien que dans le cas particulier de tous les animaux à quatre pattes, les chats, les chiens, les hommes, les vaches, tout ça, ces animaux-là, la formation des pattes avant et des pattes arrière est concomitante et est le résultat d'un petit particulier d'écoulement qui est ce qu'on appelle un jet hyperbolique. Et donc, c'est global. Alors, dans ce cas, c'est très important parce que ça veut dire que la formation de ces animaux n'est pas contingente, mais elle est en quelque sorte prédéterminée ou en tout cas contrainte par les solutions possibles de l'hydrodynamique. Ça veut dire qu'il y a une tension entre les gens qui pensent que les détails des animaux relèvent d'un ensemble de hasards qui se sont produits pendant des millions, voire des centaines de millions d'années, et des gens comme moi qui pensent que les traits caractéristiques des animaux ne sont pas du tout le fruit du hasard, ils sont déterminés par les possibles physiques. Et en fait, les possibles physiques sont très peu nombreux dans le cas des animaux, et les animaux à quatre pattes sont un des possibles physiques.
Et les possibles, vous venez de le dire, Vincent Fleury, les possibles sont moins nombreux. En expliquant le développement de la matière vivante, des animaux vivants comme vous le faites, d'une certaine façon, et c'est ce que vous soulignez dans votre livre « La chose humaine », vous simplifiez la donne parce qu'on travaille dans un monde qui a une direction, qui est unidimensionnelle ou à peu près, au lieu de travailler dans un monde où tout est possible, où tous les hasards sont possibles.
Alors, il faut bien comprendre que dans un monde, disons, complètement arbitraire, tous les animaux seraient possibles. Alors peut-être les lois de la physique permettraient-elles de faire des animaux qui seraient indéfiniment possibles. Mais en réalité, quand on regarde ceux qui existent, on s'aperçoit qu'ils sont faits très simplement. C'est-à-dire, c'est une petite boule qui s'aplatit et 10 heures après, vous avez un poisson. C'est très rapide. Je dirais, pour moi-même qui ai fait beaucoup d'études avant d'attaquer ce genre de problème, c'est une grande surprise. J'ai l'impression qu'on m'a menti pendant toute ma vie parce que, en réalité, la formation des animaux, vu du point de vue de la physique, est un phénomène très simple. Peut-être d'autres animaux ailleurs sont plus compliqués, mais ceux qu'on voit sur Terre, ils sont très simples. Ce sont des sphères qui, en gros, s'aplatissent. Voilà. Alors, il se trouve que quand vous aplatissez quelque chose, vous voyez bien que l'intensité de l'aplatissement va faire quelque chose d'un peu plus rondouillard ou quelque chose d'un peu plus allongé. Ça dépend avec quelle force vous aplatissez. Et on s'aperçoit qu'effectivement, si vous aplatissez plus, vous faites des animaux plus allongés, avec les épaules plus loin du bassin, avec le thorax plus cintré, avec une queue plus fine. Donc en réalité, les animaux, pour certaines en tout cas de leurs caractéristiques, ont l'air tout simplement de se suivre dans un ordre physique qui est l'ordre dans lequel on poursuit un écoulement qui est un processus très simple de formation. Alors je précise, ce n'est pas des choses que j'invente, que j'aurais même découvertes. Ce sont des choses qui sont tout à fait reconnues. Et il y a des gens comme moi et d'autres qui pensent qu'il faut traiter la physique de l'écoulement pour comprendre un animal donné et comment les animaux s'enchaînent. Les grosses têtes suivent implacablement les petites têtes. La physique le démontre très bien. Une fois que l'animal est en train de se former, la partie tête, elle est coincée dans une espèce d'inflation. Et vous avez des animaux d'abord avec des toutes petites têtes, puis ensuite des animaux avec des grosses têtes. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça.
Mais si on poursuit justement la tête, et quand vous décrivez Vincent Fleury dans La chose humaine, l'embryon qui croît, tête grossit, et le devant, le cerveau va prendre de plus en plus de place, et plus le cerveau prend de place, moins la mâchoire prend de place, nécessairement, parce que ce sont les lois de la physique. C'est ce que vous expliquez.
Alors voilà, ça aussi c'est une chose qui a été observée récemment, et qui fait l'objet de polémiques à l'infini par des gens qui ne supporte même pas qu'on puisse énoncer une chose aussi banale. Quand vous prenez un soufflet dans un four, le soufflet se dilate, il est un peu coincé par le plat dans lequel vous l'avez mis, mais vous voyez que le soufflet monte et commence à baver sur les côtés du plat. Alors, ce qui se passe, c'est que dans la tête, une situation analogue se produit. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer parce qu'il faut suivre délicatement ce qui se passe dans un embryon, mais au moment où la tête enfle, elle s'enroule, un peu comme le soufflet s'enroule sur les bords du plat, eh bien, en s'enroulant, le cerveau a tendance à aplatir la face et la mâchoire. Donc le résultat, c'est qu'une tendance des têtes, si elles deviennent plus grosses, c'est de rétrécir la mâchoire. Or, qu'est-ce qu'on observe ? Que les animaux qui ont des gueules très avancées et très grandes ont en général des tout petits cerveaux, comme les crocodiles. Et les animaux, plus ils ont une grosse tête, plus en général, ils ont une petite mâchoire avec des petites dents et qui reculent de plus en plus.
Est-ce que ce qui choque aussi, parce qu'on le sent tout le long de votre livre, vous mettez des gants blancs, vous évoquez souvent la controverse, souvent avec humour, mais avec une certaine lassitude aussi peut-être. Est-ce que ce qui choque aussi, c'est de réduire l'homme au rang de matériaux soumis à la rhéologie, c'est-à-dire de l'homme bande de caoutchouc, de l'homme chaussette qui se déforme ou manche de pull, de l'homme soufflé?
Voilà, alors je dois dire, c'est une question assez délicate. Quand vous abordez la formation des êtres humains par le biais de la matière, vous essayez de mettre des équations pour voir comment ça se développe, en fait vous êtes écrabouillé entre d'une part les spiritualistes, et je reçois quotidiennement, je peux vous dire quasiment quotidiennement dans ma boîte aux lettres, j'ai des mails, vous êtes en train de réduire l'homme à du matériau, c'est épouvantable, et puis de l'autre côté, vous êtes écrasé par des gens qui sont des biologistes, des scientifiques, mais qui défendent une vision presque surnaturelle de la biologie, une vision dans laquelle les événements accumulés au fil de l'évolution seraient tellement des successions de petits événements imprévisibles qu'en quelque sorte la biologie échapperait aux lois de la physique. Alors, ces gens-là sont minoritaires, mais ils sont très très, disons, combatifs. Donc moi, je fais l'objet de sites web haineux, de courriers anonymes envoyés à ma hiérarchie. Enfin, c'est très, très pénible. C'est très, très pénible. Alors, évidemment, d'un côté, les hypermatérialistes vous écrasent parce qu'ils réduisent tout à la partie biologique du problème. Et les spiritualistes vous écrasent parce qu'ils voudraient que l'homme soit d'essence divine. Alors qu'en réalité, les lois de la physique, ce sont les seules vraies lois. Elles sont très dures, mais c'est la loi. Elles s'appliquent à tout. Et elle s'applique aussi aux embryons qui se développent, et ça limite énormément les possibles.
Ça limite les possibles. Sur Terre, donc, les animaux ont l'air de ce dont ils ont l'air. Nécessairement, la physique mène vers ça sur Terre. Et vous dites que ça mènerait probablement vers ça aussi ailleurs, sur une autre planète?
Alors, ça aussi, c'est un point un petit peu amusant. Moi, je constate que depuis une quinzaine d'années, les astronomes cherchent partout des planètes bleues, essaient d'identifier des petites planètes le plus possible ressemblant à la Terre. Donc, en quelque sorte, pour les astrophysiciens et les gens qui font de l'exobiologie, etc., c'est à peu près évident qu'on va trouver des planètes partout. Et le premier qui va trouver la vie dessus sera le grand gagnant. Bon. Alors, il se trouve qu'il y a, par l'autre bout, des gens comme moi ou d'autres, arrive à la conclusion que le phénomène vivant, semble-t-il, serait assez banal, et que la formation des animaux, on en s'en est fait toute une histoire pendant longtemps, mais ce serait quand même beaucoup plus simple que ce qu'on croit. Et quand on voit les modes de formation des animaux sur Terre, on s'aperçoit que ce sont les modes les plus simples. Ce sont des sphères qui s'aplatissent de gauche à droite ou qui s'enroulent sur elles-mêmes comme une chaussette. Enfin, c'est vraiment les choses les plus simples. Donc si effectivement les animaux passent par les animaux les plus simples, nous c'est ceux qu'on observe, on s'attend à ce que sur une autre planète, ça commence aussi par les animaux les plus simples. Donc ça commence par des sortes de méduses et des sortes de petits poissons allongés, et puis après des petits poissons avec des pattes. Donc moi je pense effectivement que sur les autres planètes, s'il y a de l'eau, on trouvera des petits poissons et des petites méduses et des choses comme ça.
On va revenir sur Terre pour terminer cette entrevue, revenir d'ailleurs, Vincent Fleury, sur une piste de cirque, parce qu'à la toute fin de votre livre, vous expliquez ce qui a donné naissance à ce livre-là, et c'est une fort belle histoire de rencontre.
Ah oui, alors c'est une histoire un peu étonnante, c'est-à-dire que moi j'ai travaillé sur la formation des empreintes digitales, c'est un problème de physique très intéressant. Et il se trouve que j'ai été contacté par une télévision pour faire un film là-dessus, parce qu'il y avait, je ne sais pas quoi, des gens qui questionnaient une émission de télévision. Donc moi, je leur ai dit, écoutez, vous êtes journaliste, donc vous pouvez rentrer partout, essayez de nous trouver un singe, parce que les singes ont des empreintes digitales, et puis on va faire un petit numéro avec un singe. Et donc on a fait le tournage avec un chimpanzé dans un cirque, et alors j'étais très très étonné, parce que moi je venais voir le chimpanzé pour juste lui prendre ses empreintes digitales, et puis faire un petit discours savant à côté du chimpanzé, genre avec la blouse, professeur Fleury nous parle des empreintes digitales. Et en réalité, on s'est retrouvé avec une personne, ce chimpanzé était tellement sympa, mais c'était absolument stupéfiant. Alors, je vous laisse lire la fin de l'histoire, mais pour moi, c'était une vraie rencontre, parce que je m'attendais à une sorte de cobaye, et en fait, ce chimpanzé était pour moi manifestement une personne. Et je termine mon livre en disant, il n'y a pas plus de différence entre un homme et un singe qu'entre une mandarine et une orange. Je le pense vraiment. On s'est fait toute une histoire de l'humanité, de l'humanisation et de ce qu'est l'homme. Mais en fait, l'homme est une minuscule extrapolation d'un singe, qui est lui-même une minuscule extrapolation d'un lémurien, qui est une petite extrapolation d'une petite souris, qui est une petite extrapolation d'une sorte de lézard, qui est une extrapolation d'une salamande. Donc en fait, je suis convaincu maintenant que tous les animaux sont beaucoup plus proches les uns des autres qu'on ne croit. Voilà.
La suite de cette rencontre avec ce chimpanzé, on la trouve dans le livre « La chose humaine ou la physique des origines » aux éditions Vuber. Vous en êtes l'auteur, Vincent Fleury. Vincent Fleury, physicien spécialiste de la morphogénèse au laboratoire Matière et Systèmes complexes du CNRS à Paris. Merci beaucoup de cet entretien,
Monsieur Fleury. Merci beaucoup pour votre invitation.
Et voilà, c'est la fin de cette édition des Années-Lumière, réalisée par Dominique Lapointe, avec à la technique Michel Potvin, les journalistes Sophie-André Blondin, Gaëlle Lucia Berdou, Chantal Srivastava, au site internet Louis-André Bertrand, chroniqueur Marie-Dominique Beaulieu. C'est Yannick Villedieu qui vous parle. Bonne semaine à l'écoute de la radio de Radio-Canada et à dimanche prochain pour une autre édition des Années-Lumière. Et surtout, n'oubliez pas la bourse Fernand Seguin pour la relève en journalisme scientifique. Tous les détails sont sur notre site internet. Au revoir.